N'hésitez pas à me dire ça. Animé par Michael Lassen.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission Les Débats de Radio Accor, une émission enregistrée en public le 1er novembre 2012 pendant le Festival international du film ornithologique à Mulhouse en partenariat avec Poitou-Charente Nature. Le thème de cette conférence annuelle, la marchandisation de la biodiversité, peut-on donner une valeur à la nature ? Nous vous proposons deux émissions, une première au cours de laquelle nous poserons le cadre du débat avec Valérie Barbier. Valérie Barbier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission à l'Observatoire régional de l'environnement et vous êtes également docteur en sciences économiques et vous avez publié ce petit rapport, donné un prix à la nature.
Tout à fait.
Alors, avec nous également Jean-Luc Pujol. Jean-Luc Pujol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, responsable de la mission Anticipation Recherche Société de l'INRA, qui édite le courrier de l'environnement, et vous êtes également rapporteur du rapport, excusez-moi de la redondance, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. C'était une mission qui était présidée par Bernard Chevassu-Louis. Et je vais tout d'abord, tout de suite, m'adresser à vous, Jean-Luc Pujol, pour que vous puissiez, peut-être à partir du travail que vous avez fait en tant que rapporteur, commencer à nous poser le cadre de ce débat concernant la marchandisation de la nature. Je vous laisse la parole.
Oui. Bonjour. Donc, je suis assez content de revenir ici puisque l'exposé précis de ce rapport, j'ai eu la joie de le faire à ce festival il y a de cela 3 ans. Donc, je ne réimposerai pas à l'ensemble d'assistance les détails un petit peu lourds, un petit peu compliqués de ce rapport. J'ai souvenir que cet exposé, il y a 3 ans, avait quand même été apprécié, en ce sens que, pour une fois, on pouvait parler d'économie dans un contexte de gens passionnés d'environnement, et ça les avait intéressés. Donc je vais revenir un petit peu sur le contexte de ce rapport et des questions qu'il peut poser avec 3 ans de recul. Ce rapport, au début, c'était une saisine du ministre de l'Environnement auprès du Centre d'analyse stratégique, qui était autrefois le commissariat au plan, et qui a constitué un groupe de travail pour répondre à la saisine ministérielle. La saisine posait 4 questions. Le bilan des connaissances sur le thème de la monétarisation des actifs environnementaux, l'analyse des enjeux socio-économiques de la biodiversité en France, y compris les départements et collectivités d'outre-mer, proposer un cahier des charges pour les futures recherches, et estimer de première valeur de référence dans un contexte de calcul socio-économique pour les infrastructures. Dans cette région, vous savez ce que ça veut dire, c'est est-ce que les bénéficiaires collectivement, ou est-ce qu'on détruit de la valeur en faisant passer une grande infrastructure, comme par exemple une ligne de TGV, ce genre de choses. Et le constat a été que quand on fait le calcul socio-économique de l'intérêt d'une infrastructure, on met d'un côté les avantages, de l'autre les coûts, et dans les avantages, il y a des valeurs de référence qui sont par exemple la valeur du temps gagné par le fait d'aller plus vite. Donc on a des bénéfices d'un côté, et puis de l'autre, qu'est-ce qu'on détruit ? Et jusqu'à présent, les valeurs des actifs naturels n'étaient pas évaluées, donc la somme de ce qu'on détruisait était égale à 0 sur le plan environnemental, et ça ne coûtait que le prix d'achat des terres. Donc il était question de savoir si une approche de monétarisation, et donc pas de marchandisation, mais d'évaluation monétaire, pouvait permettre de rétablir la balance dans ce mode de calcul socio-économique qui légitime l'action publique et la dépense publique dans le fait de faire des infrastructures. C'est donc une finalité qui est d'anticiper, d'intégrer l'impact de nos choix de ménagement en intégrant la biodiversité. Actuellement, il y a des groupes de travail en cours au centre d'analyse stratégique, essaye d'élargir aussi à la valeur agricole, aussi à des tas d'éléments, la santé, la pollution, des tas d'éléments qui valaient 0 dans l'évaluation du calcul socio-économique. Pour faire cela, un groupe de travail a été constitué dans la logique des groupes de travail du centre d'analyse stratégique, avec des experts, des représentants de la société civile, il y avait quelqu'un de FNE, des personnalités qualifiées et un désir d'avancer qui s'est traduit par, je me souviens lors de la première séance, s'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler d'euros à propos, enfin de sous, de valeur monétaire à propos de la biodiversité, ben ce n'est pas la peine de rester. On fait un parti qui est celui de répondre à une commande de monétarisation. La deuxième chose, c'est que bah, d'emblée, le débat a été un petit peu vigoureux parce que c'est pas évident de parler monétarisation sans entendre, mais vous voulez vendre la biodiversité, ou si vous donnez des valeurs trop faibles, ça va être un permis de tuer la prairie, de tuer la zone limite pour pas cher, etc. Et l'autre chose, c'était qu'il fallait arriver à des valeurs de référence, c'est-à-dire des valeurs dont le mode de calcul ne soit pas strictement lié au contexte de débat local. C'est-à-dire qu'en général, quand on dit ça, ça a beaucoup de valeur sur la base d'une évaluation locale, c'est difficile de sortir de la controverse, de dire mais c'est parce que vous y tenez plus ou moins que vous essayez de vous prétendre objectif, mais ça n'est pas réellement un moyen de trancher. Donc on a essayé d'avoir des valeurs de référence, des valeurs qu'on dit tutélaires, c'est-à-dire des valeurs qui puissent être appliquées à une LGV ici ou ailleurs, une prairie, une zone humide ici ou ailleurs, et d'essayer d'avoir des règles de calcul objectivées pour qu'on puisse transposer le calcul partout où il y a problème, avec, en ayant déjà résolu les problèmes méthodologiques. Et on s'est retrouvé à devoir savoir quelle est la valeur économique qui peut se cacher derrière la biodiversité. Et il y a effectivement des approches économiques qui permettent de le faire. On a dû aussi se mettre d'accord sur ce qu'était la biodiversité. Vous savez, c'est pas devant vous que je vais apprendre qu'il y a différents niveaux de quantification de la biodiversité. C'est la richesse spécifique d'un milieu ou la richesse interspécifique ou même la richesse génétique au sein la diversité génétique au sein d'une espèce. Ensuite, vous avez une biodiversité dite ordinaire, une biodiversité extraordinaire. Bon, on attache des valeurs différentes à une espèce en voie de disparition, une espèce commune. On a dû commencer à essayer de savoir ce qu'on voulait atteindre par la monétarisation. Donc, on est parti de la biodiversité, on s'est dit, nous ne savons pas qualifier la valeur monétaire d'une espèce rare. D'un ours blanc, par exemple, on ne sait pas dire quelle est sa valeur. Par contre, on se rend compte qu'il y a une biodiversité ordinaire qui est celle qui est sur le chemin d'une infrastructure ou sur le chemin d'urbanisation et qui produit un certain nombre de choses. Et donc au même moment avec le Millennium Ecosystem Assessment, qui sont des projets internationaux d'évaluation des services de la biodiversité, rendus par la biodiversité, on avait l'opportunité d'essayer d'intégrer cette évaluation par les services apportés par la biodiversité. Alors pour un certain nombre de personnes, sur le plan de la valeur, ça peut être déjà un choix contestable, puisque si ce sont les services rendus par la biodiversité, c'est dans une vision anthropocentrée, c'est-à-dire c'est utilitaire pour l'homme, mais en tant que groupe qui travaillait sur l'économie, le parti a été clair, c'est dans une vision utilitariste, ce qui sert à l'homme dans la biodiversité. Ensuite, après, il faut arriver à trouver des services quantifiables, savoir qu'il y a des services, on ne sait pas trop, par exemple, services culturels, la représentation, les services esthétiques, c'est pas très très facile de les aborder. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus quantifiables, par exemple, la quantité d'habitat pour des pollinisateurs qu'il peut y avoir dans une prairie et le service qu'elle rend à l'agriculture à côté. Vous avez les exportations de bois qui peuvent être quantifiées. Vous avez la production d'espèces chassables pour les chasseurs. Et on arrive donc à des services quantifiables et qu'on va apporter par des valeurs d'usage. C'est-à-dire c'est l'usage qui va nous permettre de commencer à arriver à des valeurs d'échange, des valeurs de vente, des moyens d'attraper avec des euros ce que peut représenter ce qui fonctionne dans cette biodiversité. Et donc, de proche en proche, dans la séquence biodiversité restreinte à la biodiversité ordinaire, évaluée par les services quantifiables dans leur valeur d'usage, on arrive à des services monétarisables, et le groupe a convergé vers un certain nombre de valeurs, par exemple sur les prairies, des valeurs qui sont de 600 euros par hectare par an, ça fait tout petit. Ensuite, il a été question de savoir comment on tient compte de la valeur future. Alors, on a beaucoup débattu de ce que pouvait être l'actualisation de la valeur dans 10 ans, dans 15 ans. Bon, ça donne des valeurs qui sont ce qu'elles sont, mais le fait est qu'on s'est donc rendu compte que nous avions pu mettre un plan robuste et méthodologique pour arriver à un certain nombre de valeurs, mais ce qui en sort, le fait est que ça ne permet pas de défendre la biodiversité par le simple calcul économique. La meilleure preuve, c'est que derrière, le ministère de l'Environnement en charge de l'Environnement a fait des calculs avec ça pour voir ce que ça donnait face à un projet d'autoroute. Il suffit de rallonger pour contourner une zone intéressante de 50 mètres ou de 100 mètres pour que la valeur du temps gagné vienne écraser la valeur qu'on a trouvée pour la biodiversité. Donc pour l'instant, ces valeurs-là, même si elles sont parties dans la nature, entre guillemets, et ont inquiété le monde environnemental en disant « je ne sais pas me défendre avec des valeurs aussi faibles »,
elles sont prises comme étant le début d'une évaluation de choses pour lesquelles il reste plein d'autres valeurs qu'on ne sait pas encore bien quantifier. Et pour y arriver, il y a beaucoup de méthodes différentes. Alors, quand il y a des livraisons, d'usage, etc., c'est facile, il y a un prix, on tombe sur le prix du bois. Évaluer le sanglier chassé, ça peut se faire par le prix de la viande. Ça ne représente pas vraiment cette valeur-là, mais ça peut se faire aussi par les dépenses consenties par les chasseurs pour aller courir après ce sanglier. Ça commence à devenir quelque chose de plus évaluable, c'est ce qu'on appelle des prix des hédonistes, si je me souviens bien. Par exemple, quelle est la valeur d'une prairie au sens esthétique? Vous pouvez essayer de l'approcher par, si vous avez une maison qui est devant un terrain vague, son prix sera moindre que la même maison devant une belle prairie, un beau paysage. Donc les valeurs des maisons, les valeurs de loyer sont des façons indirectes d'essayer de donner une valeur à ce qui fonctionne devant vous. Et puis vous avez d'autres méthodes, mais qui sont en recherche et en discussion depuis tellement longtemps qu'elles montrent bien qu'elles sont assez difficiles à rendre robustes, c'est le consentement à payer. C'est les enquêtes, combien seriez-vous prêt à payer pour maintenir, pour sauver la baleine, pour sauver l'ours blanc, pour etc. Et ces valeurs-là, c'est pas très robuste, mais ça permet d'avoir des fourchettes très très larges. Mais c'est assez manipulable. Tout le monde est prêt à payer. Quand on vous demande de poser une question pour la baleine, mais si je vous pose la question, on va dire combien êtes-vous prêt à payer pour la préservation de la nature, vous pourrez répondre éventuellement sur des valeurs qui sont souvent centrées au niveau de la même que vous donneriez pour aider les sans-abri ou tout ça. C'est des valeurs dont le principe même de poser la question est assez culpabilisant. Et donc, on se déculpabilise moyennant un certain prix. Tous ces biais sont connus des économistes, et donc ils continuent à faire des programmes de recherche pour essayer de savoir comment arriver à ces valeurs déclarées, révélées par l'enquête, mais ça reste un travail très difficile. Néanmoins, le commissariat général au développement durable a fait une étude sur certains marais dans lesquels les prairies, le groupe Chevassu trouvait 600 euros en intégrant différentes choses dont je vais vous reparler, le commissariat général arrive à 4700 euros, c'est déjà mieux. Mais en intégrant des valeurs apportées par le consentement à payer. Donc vous voyez que c'est un champ dans lequel il y a beaucoup de discussions à avoir, de méthodologies à explorer. Alors qu'est-ce que c'est qui a été évalué? Vous avez par exemple le stockage de carbone dans les milieux naturels. À partir du moment où le changement climatique est un problème, stocker du carbone rend un service qui peut être évalué économiquement. D'ailleurs, il y a un marché des droits à polluer sur l'équivalent CO2. Donc, on a pu évaluer un petit peu quel est le service que rend une prairie en stockant du carbone, c'est-à-dire financièrement, on stocke, il y a une rente sur l'avenir, c'est-à-dire elle stocke sur plusieurs années, donc elle nous évite d'avoir à lutter contre le changement climatique. Il y a eu des groupes de travail au sein d'un stratégique qui ont évalué le prix de la tonne carbone, donc on a mis ça dans le fonctionnement de la prairie, et dans ce qui est sorti dans ce rapport-là, eh bien, ça représentait à peu près la moitié de l'intérêt du fonctionnement d'une prairie naturelle. C'est pas rien. Et on n'aurait pas pensé a priori à monétariser le stockage du carbone. Voilà un exemple, il y aurait plein d'autres choses à dire sur les types de services que peuvent rendre les milieux. Il y a une typologie de ces services. C'était mis en place au niveau international pour essayer de savoir de quoi on parle. Cette typologie sont quatre grands groupes de services. Les services d'approvisionnement. L'alimentation en eau, en bois, en fibres, en énergie, ce qu'on peut sortir de ce milieu-là et qui nous est utile. Les services culturels, esthétiques, culturels, éducatifs et pédagogiques. C'était difficile à un groupe d'ingénieurs de penser que ça pouvait être éducatif, mais vous mettez les pieds dans une école maternelle, ce qui est au mur, c'est que des dessins d'animaux, que des dessins de nature. Donc on perçoit tout de suite quelle valeur ça a d'avoir de la nature. Et des services de régulation sur climat, sur hydrologie. Votre marais Poitevin est un régulateur hydrique fantastique, un épurateur d'eau fantastique. Ça a aussi des impacts sur les maladies, parfois négatifs. Du moustique qui vous apporte le paludisme, c'est pas bon, mais vous avez aussi des milieux naturels qui sont des épurateurs pour notre propre santé. Et puis vous avez les fonctions de base, c'est-à-dire à l'intérieur des milieux, vous avez des fonctions qui servent à l'entretien de ce milieu. Ça là, on ne l'a pas évalué parce qu'on risque de le compter deux fois. Si on entretient ce milieu, eh bien, ça entretient aussi sa productivité. Donc, comme on prenait l'exportation par les prix des matériaux que ça produisait, on évitait les doubles comptes. Donc, voilà un petit peu en vrac l'ensemble des thématiques qu'il y a et des questions qu'il y a. Je ne vous fais pas l'histoire et le déroulé complet de ce rapport. Il a donc essayé d'approcher tout ce qu'il a pu, mais en se mettant comme priorité d'explorer la robustesse méthodologique. Et ça a ouvert quand même beaucoup de questions pour arriver à savoir est-ce qu'on peut réellement aborder une valeur économique de la biodiversité, des actifs naturels. Ça reste tellement une question que je vous signale un document qui est sorti très récemment de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui s'appelle « Les valeurs de la biodiversité, un état des lieux de la recherche française ». Et c'est effectivement un objet de recherche d'essayer de savoir d'abord ce qu'est la valeur, on vous en parlera après, et ensuite comment évaluer ces services, aboutir à des affirmations tangibles, correctes, opposables dans les débats. Et pour finir sur un peu d'humour, c'est que c'est pas facile de parler de monétarisation de la biodiversité devant des gens passionnés d'environnement. On me renvoie tout de suite à chaque fois, mais la biodiversité, on va vers la marchandisation. On dit, regardez la compensation, ça va être le moyen de ne plus s'occuper de ce sur quoi on passe, il suffira de protéger ailleurs. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. Pour l'instant, les méthodes de préservation de l'environnement, c'est la fameuse éviter, réduire, compenser. Et pour l'instant, ce n'est pas le calcul socio-économique qui dicte de savoir si on va passer ou pas sur un milieu naturel. C'est en phase d'exploration, en phase d'analyse. C'est au niveau international, l'évaluation monétaire des services liés à la biodiversité, le moyen de faire prendre conscience de ce qu'est, que c'est un capital, un flux monétaire. Alors nous, pays industrialisés, tertiarisés, c'est peut-être moins important, mais vous avez des pays dont la dépendance à des productions de stocks naturels comme la pêche ou autres représente un PIB, un produit intérieur nettement supérieur aux versions relatives par rapport à nous. C'était d'ailleurs ce que recherchait dans son rapport Pavan Sukhdev, qui avait été le premier rapport, fourni le premier rapport international sur cette évaluation des services économiques. Il avait parlé de PIB du pauvre. Grosso modo, je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais grosso modo, quand on retire les 10 ou 15% de personnes les plus aisées d'Inde, et qu'on regarde quelle est la contribution des services écosystémiques au bien-être des 85% moins riches, les services liés au fonctionnement des écosystèmes deviennent absolument pas négligeables. Alors par rapport à nous qui avons des prairies qui font ce qu'elles peuvent devant une ligne de TGV qui est liée à des impératifs de pays industrialisés, cette balance, elle s'affiche peut-être un petit peu moins chez nous, mais elle devient criante dans d'autres pays. C'était le sens de cette mise en valeur monétaire des services écosystémiques, qui est peut-être moins bien compris en France, mais je peux vous dire qu'ailleurs, ça a beaucoup de sens. Et pour vous dire quand même, ça reste toujours difficile, petite note humoristique au début de ce rapport de la FRB, ça commence par une citation d'un livre de Douglas Adams, le guide du voyageur intergalactique, dans lequel il est demandé à un ordinateur de répondre à la question sur le sens de la vie, le sens de l'univers, etc. Au bout de 7 millions d'années, il répond 42. Et on lui dit, mais c'est tout ce que tu as nous montré au bout de 7 millions et demi d'années de boulot. Et l'ordinateur répond, j'ai vérifié très soigneusement, dit l'ordinateur, et c'est incontestablement la réponse est exacte. Je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. Si les spécialistes de la valeur en biodiversité commencent par ça, vous voyez bien qu'ils sont bien conscients de l'ambiguïté du problème.
Alors, deux petites questions avant de donner la parole à Valérie Barbier. La première, sur les motivations de ce rapport, est-ce que c'était uniquement lié aux décisions publiques en termes d'infrastructures, ou est-ce qu'on raisonnait sur des décisions publiques plus globales? C'est-à-dire que, est-ce qu'on se pose la question uniquement quand on veut construire une autoroute ou une LGV, ou alors quand on met une politique globale, est-ce que, par exemple, qu'on a des outils comme le PIB, est-ce qu'on allait jusqu'à se dire, bah, voilà, changeons notre façon de calculer le PIB et essayons d'intégrer tous ces services que nous donne la nature dans le PIB. Alors, je sais que, par exemple, dans le PIB, aujourd'hui, on a quand il y a des embouteillages et puis qu'on consomme de l'essence, ça fait de la pollution, mais ça augmente la croissance. Et c'est une fausse croissance. Est-ce qu'on allait jusque-là ou est-ce que c'était uniquement limité à des décisions plus locales?
Alors c'était limité au calcul socio-économique appliqué aux infrastructures. Rien qu'avec ça, on a abordé qu'une petite partie du problème et on a fait 400 pages. Si on devait, et c'est dans ce qu'on appelle une approche marginaliste, c'est-à-dire je considère que je juge de l'utilité des actifs que je vais détruire en faisant passer mon infrastructure dessus, mais je ne juge pas d'une politique générale qui ferait diminuer la quantité de ces actifs naturels. Je n'ai pas un raisonnement en termes de capital environnemental au total. C'est marginaliste, c'est-à-dire on considère que la valeur qu'on va extraire n'est pas une valeur qui tient compte du fait qu'il y aura moins de ces actifs de biodiversité. La question que vous posez, reflèterait effectivement de savoir comment on peut arriver à avoir un capital, à évaluer ce capital naturel dans une optique globale, c'est-à-dire en prenant en compte sa diminution. Ça a un sens. Pour donner un exemple, actuellement, le monde agricole se mobilise en disant « arrêtons de consommer nos terres ». On a un groupe de travail au Fonds d'analyse stratégique qui essaye d'évaluer, effectivement, dans le même calcul socio-économique, comment intégrer la valeur future de production de ces terres agricoles. C'est difficile de faire fonctionner ce calcul socio-économique dans cette perspective-là, mais si on intègre que ça va être de plus en plus difficile de se nourrir parce que les terres agricoles auront diminué, on peut faire des scénarios sur les prix qui font qu'à l'actualisation de ce qui se passe dans 20-30 ans, on peut donner du poids à ce qui se passe dans 20-30 ans. Dans ce rapport, il est bien évident que tous les gens qui étaient là avaient à l'esprit les enjeux de raréfaction de la biodiversité, mais le mode de calcul marginaliste dans le cadre du calcul socio-économique appliqué aux infrastructures ne tient pas compte de cette raréfaction. Tout au plus, on peut, dans les hypothèses de comment s'appelle d'actualisation, actualiser, c'est grosso modo faire perdre de la valeur à 4% chaque année pour pouvoir, donc, actuellement, par exemple, 100 euros là, 100 euros l'an prochain représente pour moi 96 euros maintenant, c'est une préférence pour le présent, et on fait suivre jusqu'à l'infini, donc à 4%, on va jusqu'à 30 ans, 20-30 ans. Donc ça voudrait dire que ce qui reste à 20-30 ans a une valeur zéro. Le moyen de corriger ce qui est gênant sur les actifs patrimoniaux, la biodiversité, tout ça, c'est de se dire que la rareté va faire évoluer les prix aussi. C'est-à-dire que cette prairie, elle ne vaudra pas 100 euros demain, elle vaudra peut-être, en fonction de sa rareté, 130 euros ou quelque chose comme ça. Donc on peut corriger cette valeur d'érosion qui traduit pour les économistes sa préférence pour le présent. Et c'est avec ces choses-là qu'il y a d'autres travaux qui essayent d'évaluer la valeur de nos capital naturel, de nos actifs, de nos services de biodiversité dans une perspective globale. Mais c'est vrai, nous, on était restreints à...
Alors, autre question, quand on parle de services rendus, alors quand on s'adresse à une entreprise qui nous rend un service, on va la rémunérer en échange de ce service. Alors, quand c'est la nature qui nous rend le service, qui est-ce qu'on rémunère? On ne va pas donner de l'argent à la nature, c'est-à-dire qu'on réinvestit dans la nature. Quels étaient les modes d'échange à l'œuvre dans cette réflexion?
Il n'y en avait pas, mais vous touchez du doigt quelque chose qui secoue les environnementalistes, en ce sens que le mot service rendu, le mot service rendu faisait l'objet de débats sur le mot, parce que il y en avait qui considéraient que la nature ne rend pas des services à l'homme, c'est déjà trop anthropocentré de le dire comme ça, ça marginalise la valeur morale de la nature en elle-même, donc c'est difficile de répondre, mais vous mettez le doigt sur justement l'usage de ce service rendu, déjà chatouiller la présentation de la nature de la plupart des gens qui étaient dans ce groupe.
Alors peut-être que c'est des sujets qu'on va évoquer avec vous, Valérie Barbier. Alors je vous laisse rejoindre votre lieu pour que vous puissiez piloter votre diaporama. Alors pour les auditeurs, vous ne verrez pas ce diaporama, mais ça doit pouvoir, le discours de l'année dernière doit pouvoir vous suffire.
Voilà, donc moi je vais m'attacher surtout à répondre aussi à pourquoi, vraiment à insister sur le fait pourquoi donner une valeur à la nature. Alors avant tout, je vais repartir des propos de M. Pujol pour rappeler ce que c'est qu'une donner une valeur à la nature. On a vu que la nature est pour l'homme une source de valeur importante au travers des services qu'elle peut rendre. Donc les services d'entretien, de provision, de régulation, tels que nous les a présentés tout à l'heure M. Pujol. Donc en fait, la notion de valeur de la nature, ça s'inscrit dans une logique d'utilité. Et ça conduit à attribuer aux actifs naturels une valeur donc, qui reflète leur contribution au bien-être. Donc donner une valeur à la nature, c'est évaluer les services qu'elle peut rendre, c'est estimer sa capacité à contribuer au bien-être donc, des gens parce qu'elle est utile et rare. Donc pourquoi donner une valeur à la nature? Eh bien, d'évidence pour la protéger, pour garantir la conservation des services qu'elle nous procure, et ça au nom d'un développement durable. On sait que la nature est de plus en plus menacée, hein, épuisement des ressources, disparition d'espèces, détérioration de la qualité de milieu, disparition des habitats, et tout ça à cause des actions de l'homme. Donc la théorie économique néoclassique l'explique en fait par le fait que la véritable valeur sociale de la nature, donc mesurée par les services qu'elle peut rendre, n'est que rarement reflétée dans les prix de décision, de production, de consommation, d'aménagement. Et du coup, ça prédispose à sa dégradation. Donc l'un des moyens pour la protéger est de lui donner une valeur économique ou de l'intégrer, ou disons de mieux l'intégrer dans les décisions publiques ou privées. Donc je vais partir d'un exemple pour mieux m'expliquer. Donc imaginons l'aménagement, la construction d'une voie de transport. Donc si ce projet se réalise, il y a atteinte à la nature. Donc disparition, admettons, d'un écosystème forestier. Ça, c'est une atteinte à la nature en dehors de toute la considération de l'homme. En fait, c'est sa valeur intrinsèque. Mais il y a aussi atteinte au bien-être de l'homme au travers la perte des services rendus par la forêt. Donc, quels sont ces services? Des services directs, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'exploitation forestière ou alors la vente de baies, de champignons, les activités récréatives. Ça, ce sont des services marchands, donc qui sont liés à la valeur d'usage direct de la nature. Il y a aussi des services indirects, tels la régulation des précipitations, la régulation des inondations, le contrôle de l'érosion des sols, le stockage et la séquestration du carbone, etc., etc. Donc là, ça fait référence à la valeur d'usage indirect de la nature. Il y a aussi des valeurs de non-usage donc de cette forêt. Les services potentiels futurs, alors ça ce sont tous les produits et services que je viens d'énumérer, mais pour les générations suivantes, qui fait référence à la valeur d'option de la nature. Et puis aussi, il y a les services passifs, tels la beauté du paysage ou la valeur altruiste des habitats ou des espèces. Voilà. Et ça, c'est la valeur, ça fait référence à la valeur d'héritage et à la valeur d'existence donc, de la forêt. Donc la destruction de la forêt va impliquer la perte de ses services, c'est-à-dire disparition des activités sylvicoles, de loisirs ou de tourisme, disparition des services fonctionnels, disparition de tout ça dans le futur, et perte d'un paysage ou d'espèces floristiques et faunistiques. Donc la perte de ces services, on peut dire qu'elle représente un coût pour la société, qu'on appelle le coût social, donc sur ce territoire-là. Ce coût social est bien représentatif de la valeur de la forêt. Et il se détermine à partir des méthodes dont nous a parlé M. Pujol tout à l'heure. Bon, il peut y avoir une perte de service de loisirs. Si la personne qui vient d'habitude ramasser ses champignons dans la forêt, elle est obligée maintenant de changer de forêt et d'aller ramasser ses champignons ailleurs, ça va lui coûter. On peut utiliser la méthode du coût du trajet. Combien ça va lui coûter pour aller ailleurs ramasser ses champignons? Donc, il y a une perte de valeur de service récréatif. Donc, si le projet est réalisé, l'aménageur, lui, il ne va pas payer pour la globalité de ce coût social. La véritable valeur de la zone naturelle, qui va être détériorée, donc n'est pas prise en compte dans la décision d'aménagement. On va évaluer les pertes, donc en termes de coût, des services marchands, mais pas véritablement celle des services non marchands, et tout spécialement les services qui sont liés à la valeur donc de non-usage. Donc une partie du coût social n'est pas prise en compte dans la décision d'aménagement du producteur, dont son coût privé. Donc le coût privé ne reflète pas le coût social. Donc la connaissance en fait des valeurs des services écosystémiques, donc par l'intermédiaire des méthodes de calcul de la valeur, a l'avantage d'aider à pratiquer la vérité sur ce coût social, sur les effets donc négatifs de l'aménagement sur la nature. Donc là, on a pris l'exemple en fait de la destruction d'un espace de nature. Mais le schéma d'analyse, il est le même dans un cas de phénomène de pollution. Si l'industriel, par exemple, il utilise l'air ou l'eau pour déverser des polluants issus de son activité, s'il ne paie rien en contrepartie de cette pollution, si elle n'est pas incluse dans ses coûts de production, donc les coûts privés, il faut par contre considérer qu'elle représente un coût pour le reste de la société. C'est le coût social, par le fait qu'elle exerce un effet défavorable ou des dommages. Donc par exemple pour l'air, dégradation de la qualité de l'air, services de santé plus élevés, dommages infligés aux matériaux, aux cultures. Pour l'eau, il y a atteinte donc à une ressource. On est obligé d'avoir des traitements de l'eau à destination de la consommation courante. Il y a une baisse des activités récréatives comme la pêche par exemple, etc. Donc aujourd'hui, la réglementation joue un grand rôle pour limiter ces impacts des activités humaines sur l'air, l'eau ou la biodiversité, limiter le coût social. Mais par l'intermédiaire des normes, par exemple, des rejets dans l'air, dans l'eau, et pour les aménagements, il y a aussi obligation de compenser. Mais on sait que, de même que les limites d'émissions de polluants sont souvent dépassées, cette obligation de compenser n'a jamais été réellement mise en œuvre. Donc, quelle est la solution? Alors, en théorie, donc, quand le pollueur ou l'aménageur, dans notre exemple, ne supporte pas la totalité des coûts de son action, on a vu qu'il y a divergence donc, entre un coût privé et un coût social. Et cet écart entre coût privé et coût social, ça représente donc le coût des services perdus, le coût des dommages, que l'on appelle coût externe, car il est extérieur à un mécanisme de prix. Parce que la plupart des services offerts par la nature sont en effet souvent situés hors marché. D'ailleurs, on les appelle les services non marchands. Ils ont une valeur, mais ils n'ont pas de prix, contrairement aux autres biens et services. Ils n'ont pas de prix déterminé par une offre et une demande sur un marché. Ils n'ont pas de coût de production. Donc, pendant longtemps, du début de l'ère industrielle aux années après-guerre 1960, détruire la faune, la flore, rejeter des polluants dans l'air, dans l'eau, ça se faisait sans contrepartie monétaire. Leur détérioration, en fait, était considérée comme une conséquence inévitable de l'activité économique dans un objectif de croissance. Donc, ces services, les services qu'offrait la nature, avaient la particularité d'être gratuits, donc comme s'ils n'avaient pas de valeur. Et ils ont donc été utilisés de façon abusive, alors que la capacité de résilience de la nature, elle est limitée. Donc, la solution, eh bien, c'est de combler cet écart. Donc, un moyen de combler cet écart, c'est de faire payer le coût externe. De faire en sorte que le coût privé, eh bien, il soit plus important. C'est de faire payer pour une partie des services rendus ou pour les dommages faits à la nature. Donc, pour ça, il y a des instruments économiques qui ont été mis en place, qui sont censés traduire la valeur de la nature en une unité de mesure qui a la dimension d'un prix. Donc, d'internaliser ce coût externe. Là, je ne vais pas en parler, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler lors des questions. Bon, il y a le système de taxes, taxer les pesticides, taxer le carbone. Il y a le système de permis d'émission, donc acheter des quotas de CO2, mais acheter, on voit aussi de plus en plus, des unités de biodiversité. Et ça, c'est l'application. Ces signaux prix sont censés responsabiliser les acteurs économiques qui portent atteinte à la nature. C'est un signal prix, un signal vraiment négatif en direction des agents afin qu'ils adoptent des comportements beaucoup plus vertueux envers la nature. Et c'est ce qui relève du principe pollueur-payeur. Je paie pour une destruction de la nature ou pour une pollution. Alors, la mise en place, en fait, de ces instruments évoque une logique marchande. Et c'est là que je voudrais insister. C'est là, en fait, qu'on peut véritablement parler de marchandisation. Parce que pour ces permis d'émission, il y a vraiment création d'un marché. Et là, il va y avoir un prix fixé par une offre et une demande d'un permis à polluer ou d'une unité de biodiversité. Donc, c'est vrai que ce terme marchandisation est assez polémique, mais je crois que dans ce sens-là, il prend tout son sens, mais pas ailleurs, quoi. Donc, c'est pour ça que j'insiste ici, la marchandisation, c'est bien un processus qui consiste à transformer des échanges qui sont normalement non marchands en échanges marchands classiques. Et donc là, finalement, on peut penser que la nature devient un bien économique avec un prix fixé par un marché. Mais là encore, le prix qui est fixé n'est pas vraiment le véritable reflet du coût social. Alors, économiquement, c'est irréalisable. On a parlé tout à l'heure du rapport Stern là, qui calcule le prix idéal du carbone à partir d'informations sur le coût des dommages engendrés par le réchauffement climatique. Et en fait, on en déduit que la tonne de carbone de CO2, elle devrait être à 85 $ dans le cas où d'un scénario de laisser faire où les dommages sont vraiment au maximum et on est loin d'être à ce prix-là. Donc, il faut absolument quand même que ce prix, même s'il ne reflète pas le véritable coût social, il s'en rapproche le plus possible. Et il faut donc qu'il soit suffisamment élevé pour que le pollueur trouve plus rentable d'investir dans une technique moins polluante pour sa production plutôt que de payer des quotas ou des taxes. Et de même que l'aménageur, si vraiment son coût est un peu plus important, il préférera peut-être changer de projet et dévier sa construction. Bon. Donc, quoi qu'il en soit, on fait payer pour l'utilisation de la nature, mais il n'y a pas complètement disparition du coût social. Et finalement, que faire vraiment pour la protéger? La responsabilité qui incombe à la génération actuelle, c'est bien d'amorcer une transition vers un mode de production et de consommation soutenable à long terme. Donc la solution la plus efficace, ce n'est pas celle d'augmenter le coût privé, de faire payer pour l'utilisation de la nature ou pour les dommages infligés. C'est bien celle de baisser le coût social. C'est de faire en sorte qu'il y ait moins de dommages, de faire en sorte de préserver les services donc offerts par la nature. Donc, privilégier non pas le principe pollueur-payeur, mais le principe de précaution, hein, être dans plutôt du préventif que du correctif. Donc là, du coup, la valeur de la nature, hein, le calcul de la valeur monétaire attachée à la nature, doit permettre, prend tout son sens et il doit permettre d'argumenter le bien fondé d'une politique de protection. Traduire la valeur sociale en valeur monétaire, c'est bien vouloir prendre en compte les différentes raisons qui fondent l'intérêt de la préserver. Et d'ailleurs, tous les rapports qui ont été écrits font apparaître les chiffres sur des exemples, hein, les services indispensables que nous rend la nature. Donc, Stern, elle nous rend aussi service, mais bon, c'est pas pareil. Et voilà, donc, les rapports Stern et ceux d'autres qu'on a vus tout à l'heure, ou Chevassu au lit. Bon. Donc, l'évaluation des services rendus par la nature doit devenir vraiment un outil de diagnostic et d'analyse afin de sensibiliser et de mobiliser, de faire vraiment prendre conscience, afin d'améliorer les analyses ou avantages lors de choix de projet, afin d'orienter les comportements vers un mode de développement plus soutenable, donc de faire en sorte que des décisions maintenant soient prises en toute connaissance de cause. Et il semble donc important finalement de rompre avec le cercle vicieux qui ne révèle la valeur que lorsqu'il y a régression et faire payer pour ça. La solution, ça réside bien dans une identification suffisamment précoce de la valeur du service pour l'intégrer dans le processus de décision et donc entrer véritablement dans un processus de protection de la nature. Donc, du coup, aujourd'hui, la gestion des ressources naturelles se retrouve entre deux évolutions. D'un côté, le développement de la logique marchande, face à l'ampleur des phénomènes, eh bien, le principe power-payer est plus que jamais d'actualité. Il y a une place de plus en plus importante pour les instruments économiques, que sont les taxes et les permis à polluer, donc qui sont à l'origine de l'idée de marchandisation. Et de l'autre, eh bien, il y a l'émergence accrue de logique civique et territoriale. Aujourd'hui, donc, les enjeux sur la nature sont tels que les réflexions se tournent vers l'exploration de nouvelles voies qui satisfassent aux besoins de croissance économique et de préservation de la nature. Donc celles qui seront à même d'avancer vers une mutation écologique de l'économie et donc de promouvoir de nouveaux modes de développement, de nouveaux modes comportementaux des agents économiques basés sur des véritables choix de prévention. Et l'ensemble des secteurs, évidemment, est alors concerné. Et les agriculteurs, par exemple, au travers les initiatives volontaires des modes de production qui contribuent à l'entretien des écosystèmes, s'appuyer sur les processus naturels pour équilibrer les paysages agricoles. Donc, redécouvrir l'importance des haies, des auxiliaires, des pollinisateurs, etc. Il y a aussi les entreprises au travers du concept de responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a aussi les citoyens, hein, par des comportements responsables. Il y a les collectivités territoriales, avec des nouveaux modes de gouvernance, des soutiens à la recherche et à l'innovation, aux éco-industries, aux acteurs du territoire, la mise en place d'agenda 21, etc. Donc des actions au plus proche du territoire, avec donc l'importance de faire connaître la valeur des actifs naturels de ce territoire, des services rendus. Et là, ce sont les associations aussi qui peuvent avoir un rôle très très important à jouer. Donc la valeur de la nature, bien sûr, c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet très controversé. On peut se poser des questions. Donc la valeur de la nature peut-elle être analysée du seul point de vue de sa contribution au bien-être humain? Ou doit-on au contraire lui reconnaître une valeur non instrumentale, hein, pour elle-même? Cette interrogation sur le fondement de la valeur de la nature, elle confronte l'homme à des questions éthiques et morales. Donc au nom de quoi reconnaît-on de la valeur à la nature? Eh bien, ces débats sont le reflet des diverses approches en fait, du développement durable dans la littérature économique. Il y a différentes approches, anthropocentrées, biocentrées, écocentrées, qui conditionnent la valeur que l'on souhaite associer à la nature et la façon dont on souhaite privilégier sa protection. L'approche anthropocentrée de la protection de la nature, ça s'inscrit dans le cadre d'une économie, d'une théorie économique dominante, hein, c'est l'approche néoclassique. La nature trouve sa place dans l'économique par les services qu'elle peut rendre. Elle a une valeur instrumentale et on compte sur le progrès technique pour éviter ou pour réparer tout dommage. On ne reconnaît pas l'existence de contraintes environnementales absolues. Donc l'économie englobe la sphère environnementale et elle est identifiée comme une priorité. Donc l'un des principaux enjeux du développement durable réside alors dans la capacité de l'économie à générer une croissance à long terme, pérenne, et la création de richesses est une condition nécessaire du développement et de la protection de la nature. Donc l'objectif est ici l'augmentation du bien-être humain et la nature est protégée selon le degré d'utilité qu'elle lui procure. C'est au bénéfice de l'homme qu'il faut la protéger et la valeur de la nature est du coup souvent sous-estimée et à valeur compensatoire. À l'opposé, on a l'approche biocentrée, qui est une approche qui défend une conception préservationniste de la nature, qui justifie la protection intégrale de la nature pour la valeur que celle-ci possède en elle-même. La nature a une valeur intrinsèque, indépendante de l'utilité qu'en ont les humains. Et là, la valorisation et la monétarisation de la nature correspond à une dévalorisation de cette dernière. Cette approche est basée sur des considérations éthiques et elle répond à une critique radicale des modes de production et de consommation de la société. Donc la protection de la nature n'est alors compatible qu'avec une décroissance économique. Et il y a aussi une approche éco-centrée, qui se situe au milieu, qui est très intéressante, parce qu'elle insiste sur l'existence des limites naturelles. La croissance économique ne peut être durable si elle menace son support écologique. Donc la nature est un capital qu'il convient de conserver. Elle fournit des services fondamentaux, ainsi que des valeurs de non-usage qui sont uniques et irremplaçables, et elle prône donc une gestion mesurée, rationnelle, scientifique des ressources naturelles. Par exemple, donc d'utiliser les ressources renouvelables de manière à ce que leur taux d'utilisation ne soit pas plus élevé que leur taux de renouvellement, ou de conserver des flux de polluants au niveau ou en dessous des capacités d'assimilation, ou d'améliorer partout où cela est possible l'efficacité des processus de consommation et de production dans l'utilisation du capital naturel. Donc, en fait, cette approche propose un dépassement de l'opposition traditionnelle entre homme et nature. L'homme, et par là même donc le système économique, fait partie de la nature. Il profite des services rendus par la nature. Ces productions doivent s'intégrer à la régénération des milieux naturels, à l'entretien de la biodiversité. Il s'agit donc de penser l'homme dans la nature, en admettant à la fois ses besoins, son action prédatrice, alors à l'image du fonctionnement même de la nature, mais aussi donc en acceptant la possibilité d'une forme de respect envers une valeur intrinsèque de la nature. Donc, ce sujet de la valeur, il faut trouver une solution à l'écueil du biocentrisme, sans rester toutefois dans l'approche trop anthropocentrée, laquelle semble exclure totalement la possibilité même d'une fin en soi à la nature. Donc, l'approche finalement écocentrée semble assez intéressante. Donc, pour conclure, je dirais que le débat homme ou nature semble dépassé. L'homme et la nature sont extrêmement liés. Donc l'idée, c'est de changer de perspective, changer notre rapport à la nature, donc repenser la valeur que nous lui accordons. Et ça ça relève vraiment de la décision politique et une réforme en profondeur de toute façon de l'économie et des comportements individuels est alors indispensable. Et voilà, sommes-nous prêts à cela? Merci.
Merci Valérie Barbier. Donc ces deux exposés posent des questions. Donc j'invite à tous ceux qui sont dans la salle à nous les faire parvenir. Et dans une deuxième émission, nous tenterons d'y apporter des réponses ou des éléments de réflexion.